Avec ma consœur Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien du 7-9 la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, ami auditeur, dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nicole Belloubet, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Pour commencer, quelques mots sur le discours de politique générale Édouard Philippe hier à l'Assemblée nationale. À lire la presse ce matin, ce discours marque moins une rupture qu'une continuité. Le cap reste le même, mais il est verdi selon le Figaro, vert et rose à la fois selon La Croix. Il y a donc de nouvelles nuances, de nouveaux chatoiements, de nouvelles couleurs, des précisions de calendrier, mais rien d'inédit. Pas d'acte 2, mais un acte 1 bis, comme dit Libération. Où voyez-vous, Nicole Belloubet, la césure de l'an 2 qui était promise et annoncée ?
Je crois qu'elle tient à la fois, au-delà de la poésie dont vous faites preuve, elle tient à la fois dans l'ambition qui est réaffirmée de transformer notre pays, de le transformer concrètement, de prendre en compte les préoccupations de la vie des Français, qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse du chômage. C'est donc une ambition qui est clairement marquée et il me semble qu'elle tient aussi, ce qu'a dit le Premier ministre, à la méthode qui sera utilisée, c'est-à-dire à la fois une méthode qui passe par l'élaboration des textes, qui sont indispensables, mais qui veillera à ce que ces textes se traduisent le plus rapidement, le plus efficacement, le plus concrètement possible.
Alors avant de vous entendre, on est content de vous entendre ce matin, parce qu'on aimerait avoir les détails sur le futur projet de loi sur la PMA étendue à toutes les femmes. Juste une question, il y avait un autre sujet que vous portiez, vous particulièrement, c'est la réforme institutionnelle. Le Premier ministre a choisi de reporter la réforme institutionnelle. Est-ce que vous le regrettez, vous, personnellement, qui portez ce texte?
Alors, il y a des dispositions dans la réforme constitutionnelle que je juge extrêmement importantes. Je pense à celle qui me concerne particulièrement dans le champ ministériel qui est le mien sur une évolution du statut des magistrats du parquet qui est importante, sur la Cour de justice de la République. Et puis, il y a, parce que nous allons présenter le projet de réforme avec les lois organiques et la loi ordinaire en Conseil des ministres, donc cela montre vraiment que nous avons cette ambition et que nous la porterons. Il y a dans ce texte également des thématiques autour de la démocratie participative, puisque nous créons...
Oui, ce qu'il y a dans le texte, on le sait, mais le problème, c'est qu'il a décidé de le différer.
Vous le savez, une réforme constitutionnelle pour aboutir par la voie du Congrès suppose l'accord forcément des deux assemblées et donc du Sénat. Nous constatons aujourd'hui que cet accord n'est pas possible sur tout. Il y a vraiment eu des avancées, mais il n'est pas possible sur tout. Il nous faut donc continuer le travail. Donc nous allons vraiment délibérer ce texte en Conseil des ministres et continuer à travailler sur le texte.
Le Premier ministre, sur ce sujet, a prononcé le mot de référendum hier. C'est une hypothèse.
Il l'a prononcé à propos des dispositions de la loi organique, pas de la loi constitutionnelle, puisque vous savez que ça n'est pas possible pour une loi constitutionnelle. Il l'a prononcé, mais c'est une hypothèse qui a toujours existé et qui est donc toujours pendante.
On en vient à la PMA, en Conseil des ministres en juillet, à l'Assemblée en septembre. Le calendrier, le voilà, il est donc fixé. Il se dit persuadé, le Premier ministre, qu'un débat serein doit être possible sur le sujet. On entendait dans le journal de 8h que les opposants commencent aussi à s'organiser, qu'ils vont manifester. Comment éviter? Partons de là, c'est important, une hystérisation du débat sur la PMA.
Bien, peut-être par un travail parlementaire qui a d'ailleurs déjà commencé avec l'ensemble des parlementaires, où nous avons eu à 4 reprises l'occasion de réunir ceux qui étaient intéressés pour leur présenter les tenants et les aboutissants de ces débats. Cela s'est fait de manière extrêmement apaisée avec mes deux collègues, Agnès Buzyn, qui porte principalement ce texte, mais aussi Frédéric Vidal sur les aspects de recherche scientifique, puisque la loi bioéthique, évidemment, porte surtout là-dessus.
Vous pensez que le consensus est là ?
Je n'ai pas dit que...
Ou à portée de main ?
Je n'ai pas dit que le consensus était là. Il faut être lucide. J'ai reçu avant-hier, je crois, l'ensemble des associations qui s'intéressent à ce sujet, aussi bien ceux qui sont pro que ceux qui sont pas favorables. Évidemment, le consensus ne sera pas facile à établir, mais il me semble que nous pourrions aboutir à un débat apaisé en faisant valoir les arguments qui s'imposent.
Alors, sur la filiation, il y a 3 options qui sont sur la table. C'est un peu technique, mais on aimerait savoir qu'est-ce que le gouvernement a retenu. Est-ce que je les donne ou est-ce que vous les donnez vous, les trois options qui sont sur la table, ou est-ce que vous nous dites là ce matin ce que vous avez retenu ?
Non, je ne vous dis pas ce que nous avons retenu, puisque en réalité, comme vous le disiez à juste titre, il y a trois options qui sont possibles, soit l'extension du droit commun de la filiation. Nous, d'abord, peut-être quand même une précision, nous parlons exclusivement du mode d'établissement de la filiation, c'est-à-dire de la façon dont on est reconnu fils ou fille d'eux, pas du tout des conséquences en termes juridiques de la filiation, qui là sont les mêmes pour tout le monde, bien entendu. Nous ne parlons que du mode d'établissement. Donc, dans ce mode d'établissement, soit nous étendons au couple de mère ou aux mères célibataires, ce qui prévaut aujourd'hui pour les couples hétérosexuels, soit nous créons un régime spécifique pour tous les enfants qui seront issus d'une procréation médicalement assistée avec un tiers donneur, soit nous créons un régime spécifique seulement pour les couples de femmes et les femmes célibataires.
Et quelle est votre préférence, vous, qui connaissez le sujet, qui l'avez étudié ?
C'est un sujet qui est vraiment extrêmement délicat, parce que il se rapporte également à des notions liées à la protection de la vie privée, à des notions liées à l'accès aux origines. Comment indiquons-nous et faut-il indiquer qu'un enfant est né par procréation médicalement assistée ? Ce sont des questions très délicates.
Quel est votre avis, madame la ministre ?
Et donc, il y a deux options qui ont été transmises au Conseil d'État pour recueillir son avis. Autrement dit, au moment où je vous parle, l'avis du gouvernement n'est pas complètement stabilisé. Nous avons transmis deux options au Conseil d'État.
Lesquelles ?
Pour l'option d'un régime spécifique pour les femmes seules et l'option d'un régime spécifique pour l'ensemble des enfants nés par PMA.
Donc vous abandonnez la première option que vous nous avez expliquée, c'est-à-dire celle d'étendre...
Actuellement, la décision n'est pas prise. Oui. Au moment où je vous parle, la décision n'est pas prise. Alors,
Mais comprenez-nous, on veut les détails, parce que le Premier ministre a affiché la couleur, il a dit que le projet de loi était prêt, or c'est non, la question essentielle.
Le mot « prêt », il passera en Conseil des ministres en juillet. Donc je ne peux pas vous dire... au moment où nous parlons, que toutes les décisions soient prises. Je vous ai dit très brièvement les enjeux que cela emporte. Au moment où nous parlons, toutes les décisions ne sont pas prises.
Donc pour être concrète pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui ne comprennent pas bien, si moi je décide d'avoir un enfant avec une femme avec qui je suis en couple, toute la question est de savoir ce qui sera écrit sur l'acte de naissance de l'enfant, c'est ça ?
Toute la question est de savoir... comment vous allez déclarer avant la naissance que vous avez un projet parental ? Toute la question est de savoir où sera écrit au moment de la naissance le fait que votre enfant est né, a été conçu par une PMA avec tiers donneur. Donc effectivement, ce sont ces questions-là qui sont très sensibles humainement, qui doivent être tranchées.
Nicole Belloubet, sur la question de la GPA.
Pardon, juste un mot. Également, ce qui se joue, c'est aussi une question d'égalité. Entre les parents, est-ce que nous devons établir une égalité entre les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, ou bien est-ce que
un régime spécifique pour ceux qui sont homosexuels.
Donc ce sont ces questions-là qui, au moment où je vous parle,
ne sont pas
encore complètement tranchées.
Sur la question de la GPA maintenant, je ne confonds pas PMA et GPA, mais sur la question de la GPA, gestation pour autrui, vous avez reçu plusieurs associations hier, on a pu lire un certain nombre de leurs propos dans la presse. Pourquoi ne pas choisir, dans le cadre du débat maintenant sur la PMA, le mode de filiation qui permettrait aux enfants nés de GPA de sortir de l'insécurité juridique dans laquelle ils sont ?
Alors, qui était une promesse d'Emmanuel Macron, il me semble.
Deux observations par rapport à ce que vous dites. D'une part, il me semble que le champ de l'affiliation GPA n'est pas dans le champ de la loi bioéthique. Nous traitons du mode d'établissement de l'affiliation PMA parce que nous allons instaurer la PMA dans la loi bioéthique, donc c'en est une conséquence inéluctable. En revanche, la question de la GPA ne relève pas de la loi bioéthique, nous ne le traitons pas dans ce cadre-là, donc il n'est pas illogique de ne pas traiter les questions qui sont liées à l'affiliation.
Donc pour l'instant, la question de l'insécurité des enfants nés par GPA
ailleurs,
ne sera pas traitée, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Je vous dis que ce ne sera pas traité, mais c'est la deuxième observation que je voulais faire. Il me semble qu'il n'y a pas d'insécurité juridique, puisque en France, comme vous le savez, avec la jurisprudence de la Cour de cassation que nous avons traduit dans dans des instructions du ministère de la Justice. La filiation est établie à l'égard du père et il y a un système d'adoption qui peut ensuite être mis en place à l'égard du second parent. Ce mode d'établissement de la filiation par transcription de l'état civil plus adoption, il a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant l'une des possibilités qui peut s'exercer. Donc nous sommes, dans la pratique que nous avons en France, en conformité avec ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus, c'est ça ce que
vous
dites ?
Il me semble qu'à ce stade, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et c'est donc la raison pour laquelle, également, nous ne toucherons pas à ce sujet-là.
A contrario, Valérie Pécresse, que vous avez sans doute entendu à 7h50, demande que soit écrit dans la loi la non-marchandisation du corps des femmes pour éviter que le principe d'égalité ne s'applique pour un couple d'hommes qui voudraient avoir des enfants. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Est-ce que vous écrirez dans la loi, d'autres le demandent que Valérie Pécresse, la non-marchandisation du corps des femmes?
Je ne crois pas que nous l'écrirons comme tel, mais en tout cas, cela découlera de l'ensemble des dispositions que nous aurons prises. Parce que, en réalité, en ne traitant pas le sujet de la GPA, et en verrouillant d'ailleurs un certain nombre de dispositions juridiques liées à la PMA, nous éviterons une extension à la GPA.
Mais est-ce que vous voyez, ça c'est une question que je vous pose quand vous regardez le débat public sur tous ces sujets, bah précisément que tous ces sujets se touchent les uns et les autres et que on peut comprendre du coup qu'un certain nombre d'opposants, on est pour, on est contre, mais ceux qui sont contre disent, on débobine et tout va arriver.
Je comprends cela,
mais
c'est
vous
évident.
Dites non.
Je comprends cela, mais je crois qu'en fixant un certain cadre, en sécurisant la filiation, en fixant des cadres, nous évitons de tirer le fil jusqu'à la GPA que nous refusons absolument.
Il y a un autre sujet brûlant. Le Premier ministre n'en a pas parlé hier, mais vous l'annoncez ce matin. C'est la réforme de la justice des mineurs, Madame la Ministre. Vous allez engager la réforme de l'ordonnance de 45. Avant d'entrer dans le fond de ce que vous dites et de ce que vous proposez, est-ce que vous confirmez que cette réforme se fera par ordonnance et donc ne donnera pas lieu à un débat parlementaire? Et certains vous accusent de vouloir contourner le Parlement sur cette question qui est éminemment importante.
Je confirme que la réforme se fera par ordonnance puisque j'ai été habilitée à cette fin par le Parlement et j'ai 6 mois pour écrire cette ordonnance, c'est-à-dire jusqu'au 23 septembre prochain. Mais en revanche, je ne confirme pas ce que vous dites à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat parlementaire, parce que l'ordonnance, j'en prendrai les dispositions nécessaires en ce sens, l'ordonnance n'entrera en application que 1 an environ après son édiction, de sorte que puisse être organisé un débat parlementaire. Je m'y étais engagée devant le Parlement, je confirme devant vous cet engagement. Et d'ailleurs, pour écrire ce texte, je me suis entourée d'un certain nombre d'élus, toutes tendances politiques confondues, pour recueillir leurs avis.
Première nouveauté du texte, Nicole Belloubet, pour les enfants de 13 ans ou moins. Pourquoi fixer donc à cet âge-là la présomption d'irresponsabilité pénale ?
Alors je crois que pour bien comprendre cette situation, il faut partir de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas d'âge de déclenchement de la responsabilité pénale. C'est une singularité. C'est une singularité par rapport à la plupart des autres pays. C'est une singularité également par rapport à ce qui nous est demandé dans les conventions internationales de protection des droits de l'enfant que nous avons nous-mêmes signées. Mais nous fonctionnons en France sur l'idée du discernement des juges. Autrement dit, face à une situation, le juge doit être en mesure de discerner la maturité de l'enfant et donc de déclencher ou non sa responsabilité pénale, que le gamin ait 12 ans ou qu'il en ait 14. Nous considérons que pour la clarté, pour donner en quelque sorte une grille de lecture à peu près homogène à nos magistrats, il est important de fixer un âge, un seuil de déclenchement de la responsabilité pénale.
Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire, comme je le lis dans La Croix ce matin, c'est écrit en gros et en gras, que les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis ?
Ce n'est pas tout à fait exact. Le titre ne m'appartient pas exactement. Cela signifie clairement que en dessous de 13 ans, il y aura en principe une présomption d'irresponsabilité pénale, mais que le juge pourra toujours faire jouer le discernement et, le cas échéant, admettre qu'un enfant de 12 ans ou de 11 ans peut être responsable pénalement.
Vous avez entendu les cris d'orfraie de Valérie Pécresse qui pense que c'est gravissime comme décision parce que beaucoup d'enfants commettent les actes de délinquance manipulés par les grands.
Absolument.
Elle parlait notamment des cambriolages.
C'est la raison pour laquelle, Madame Salamé, je le dis clairement ici, ce sera simplement une présomption qui est tout de même fondée sur l'idée que nous avons des enfants, c'est-à-dire que les mesures éducatives, lorsqu'on est très jeune, tous les gamins de 11 ans ne doivent pas aller en prison tout de même. Mmh. Ça, je le revendique. En revanche, il n'est pas question qu'un enfant de 11 ans n'ait pas une réponse par rapport à l'acte qu'il a commis.
Et donc d'irresponsabilité pénale, mais une présomption d'irresponsabilité.
Une présomption d'irresponsabilité pénale, c'est ce que je vais proposer dans le texte, d'une part. Et d'autre part, si vous me le permettez, juste un dernier mot. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il faut savoir que dans notre droit, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de sanction pénale. Le gamin peut être reconnu comme pénalement responsable, mais il n'y a pas de sanction pénale. Il n'y a que des mesures éducatives. Ce sera évidemment le cas dans ce que je proposerai demain. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que, je suis vraiment désolée, ce qui n'est pas possible, c'est qu'il n'y ait pas de réponse. Or, dans ce que je propose, supposons qu'un enfant de 11 ans ne soit pas reconnu pénalement responsable, puisqu'il y aura une présomption d'irresponsabilité que le juge respectera. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça veut dire d'une part que les victimes seront indemnisées, évidemment, et cela veut dire d'autre part qu'il devra y avoir des mesures éducatives puissantes, comme par exemple le placement ou l'interdiction de paraître, qui sont des réponses extrêmement efficaces, évidemment, par rapport à ce jeune.
Je voudrais qu'on aille au standard. Manuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez, je le lis sur mon écran d'ordinateur, Manuel Furet, et vous êtes bâtonnier des avocats de Toulouse. C'est bien ça ?
C'est tout à fait cela.
Et votre question porte sur la justice des mineurs, précisément.
Exactement.
On vous écoute.
Voilà. Oh, mais ma question porte sur le dernier sujet évoqué par Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Monsieur.
Paradoxalement, avec la création d'un seuil d'irresponsabilité pénale fixé à 13 ans, moi je me demande si on ne doit pas craindre justement un durcissement de la justice des mineurs. Je m'explique. À partir du moment où on institutionnalise la responsabilité pénale, ne va-t-on pas à terme caler leur assistance, leur soutien, l'organisation de la procédure sur le système des majeurs ? Et par là même, ma question finale, c'est de savoir quelle sera la place dévolue à l'assistance obligatoire des avocats dans le cadre de votre réforme.
Merci Manuel. Nicole Belloubet vous répond.
Non, je ne crois pas que l'on va caler sur le système des majeurs. Je le dis clairement ici. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que tous ces mineurs soient pris en charge par un juge des enfants. Et que cette prise en charge puisse donner lieu, c'est ça qui est important, à une réponse effective. Et ça, c'est ce sur quoi je dois travailler. C'est-à-dire que quand on va dire qu'un mineur soit irresponsable pénalement, soit même ne l'est pas, il n'est pas question qu'il n'ait pas de réponse. Il faut absolument qu'il y ait une réponse qui peut être soit une mesure éducative, comme je vous le disais, qui peut être très contenante, soit une réponse de nature différente. C'est cela qui est important. Et vous savez, là-dessus, nous avons à progresser. Nous avons à faire en sorte que nos réponses soient plus rapides qu'aujourd'hui. Vous aviez lu, puisque vous m'aviez interrogé là-dessus il y a quelques mois, les juges des enfants qui disaient « mais nos décisions ne sont pas exécutées ». C'était à cela qu'ils faisaient allusion. Pas d'ailleurs seulement du côté de l'État et de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi du côté des départements. C'est notre capacité à apporter des réponses et à prendre en charge ces jeunes. La place de l'avocat, évidemment, est inchangée. Elle sera toujours présente et elle est nécessaire.
François de Montreuil est au standard d'Inter. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Madame Belloubet. Bonjour, en tant que garde des Sceaux, vous êtes garante de la démocratie en France. Et l'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté de la presse. Aujourd'hui, sous votre gouvernement, même si vous n'êtes pas Première ministre, mais sous le gouvernement actuel, la liberté de la presse est particulièrement attaquée. Et que ça soit la presse mainstream, avec notamment des convocations à la DGSI, ou la presse plus indépendante qui couvre les manifestations, on l'a vu avec Gaspard Glanz ou Tabouaf hier avant-hier, et avec des attaques sur le métier de journaliste. Par exemple, hier, le portable de Tabouaf qui a été gardé, c'est l'un des outils avec des éléments de journalistique de ce journaliste qui ont été gardés par la police.
Donc,
je vous ai entendu.
Quelle réaction?
Je
allez-y, François, rapidement.
Je vous ai entendu, madame. Madame Belloubet, vous indignez quand le Sénat fait des convocations disant que c'est la démocratie qui était en danger. Je ne vous ai pas entendu vous indigner quand les journalistes sont attaqués.
Merci François pour cette question. Nicole Belloubet vous répond.
Il va de soi que la liberté de la presse est une condition essentielle de la démocratie. J'ai eu la chance et l'honneur d'être membre du Conseil constitutionnel. Nous l'avons écrit à de très nombreuses reprises dans des décisions. C'est évidemment un principe qui est incontournable. Et d'ailleurs, j'observe que dans les pays dans lesquels il y a des tendances à aller vers une démocratie libérale, c'est toujours deux choses qui sont mises en question. La liberté de la presse et l'indépendance de la justice.
D'où les questions que pose François.
La question que pose notre auditeur,
DGSI,
votre auditeur,
violence policière contre les journalistes.
Sur la question de la DGSI, j'ai eu l'occasion de répondre à une question au Parlement sur ce sujet. S'il y a eu une enquête qui a été conduite avec une audition par la DGSI comme service d'enquête, c'est parce qu'il y avait eu révélation du nom d'une personne qui avait en charge les intérêts de la nation en termes de sécurité nationale.
Madame Belloubet, sur la question des enfants de djihadistes, lundi, le gouvernement français est allé chercher 12 enfants français et les a rapatriés sans leurs parents. C'est le deuxième rapatriement du genre en 3 mois. Et qu'est-ce qu'on apprend mardi, le lendemain, le retour en France d'une famille entière avec un père djihadiste, ses 2 épouses et leurs 9 enfants? Pourquoi ces 2 politiques différentes? Y a-t-il 2 poids, 2 mesures?
Non, c'est pas 2 poids.
Ou une cohérence?
Il y a une cohérence. Nous avons toujours dit pour les adultes, vous le savez, que nous considérions que les adultes étaient responsables de leurs actes, que s'ils étaient partis sur les terrains de combat, ils devaient être jugés sur ces terrains de combat. En revanche, et vous le savez aussi, nous sommes très attentifs à la situation des mineurs, et notamment quand ils sont orphelins. Et c'est la raison pour laquelle dans les 12 enfants qui sont rentrés lundi, il y en a 9 qui sont orphelins et 3, je crois, pour lesquels la mère avait donné son consentement. Il n'y a pas 2 poids de mesure, ce sont 2 choses différentes. La famille qui est arrivée le lendemain, c'est-à-dire un couple avec...
Elle venait de Turquie.
De Turquie et c'est lié à l'application du protocole Cazeneuve de 2014 qui fait que, évidemment, ces gens qui reviennent de Turquie, nous les accueillons, nous les judiciarisons immédiatement, ils sont pris en charge, évidemment retenus en détention pour les parents.
Un mot, Léa, peut-être sur...
Le Premier ministre a annoncé un plan stupéfiant. Vous êtes au courant? Vous l'avez découvert en même temps que nous?
Bien sûr que nous sommes au courant. C'est un sujet extrêmement délicat, qui est d'ailleurs pas sans lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la justice des mineurs. Nous avons beaucoup d'actions qui sont conduites sur ce sujet-là. J'ai déjà commencé dans la loi justice avec, vous le savez, la forfaitisation de la consommation de cannabis.
Le plan stupéfiant, il arrive quand?
Dans quelques semaines.
Merci.
Madame la ministre, merci Nicole Belloubet au micro de France Inter.
Merci.